Louange et reconnaissance à l'Éternel, nous croyons ce que nous avons chanté et nous nous souvenons de ce qui a été annoncé hier, prêché hier. Le même Jean qui a apporté le message et a ouvert la voie au Seigneur, a frayé la voie au Seigneur, a dit, je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est simplement le message divin annoncé, qui a été annoncé directement dès le commencement. Et celui qui remonte les traces divines peut aller jusqu'au prophète Joël et au prophète Ésaïe, et il y est déjà écrit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. En raison des dérives du pentecôtisme, nous avons acquis une certaine crainte de ce qui peut et doit se produire de manière surnaturelle. Nous devons nous débarrasser de cette crainte et compter sur le fait que Dieu peut donner et donnera des choses vraies par grâce. Cela a-t-il été dit assez clairement? Si nous pouvons distinguer ce qui n'allait pas, ce qui était faux et pourquoi cela était faux, alors comptons sur le fait que Dieu est capable de tout réparer. La prédication de la parole, pas celle du frère, ni celle de l'un, ni celle de l'autre qui sont ici devant, mais la prédication de la parole nous a montré hier la clé. Avant l'onction avec l'Esprit, le renouvellement et la nouvelle naissance doivent avoir lieu dans le cœur par l'Esprit. Si ce n'est pas le cas, l'homme est seulement loin dans le second domaine et peut accomplir des choses puissantes, mais reste intérieurement dans son âme ce qu'il était auparavant. Oui, il se peut même qu'il devienne même pire que ce qu'il était auparavant, malgré l'onction de l'Esprit de Dieu. Car, alors là, à ce moment-là, il se sent alors tout à fait sûr de lui, n'est-ce pas? Au-dessus des autres, et ne se contrôle plus lui-même. Le chemin de Dieu nous a déjà été montré dans la prédication de frère Branham, que nous avons traduite ici, avec le titre « Vous devez naître de nouveau ». Il a dit au moins deux ou trois fois, d'abord vient la naissance de l'Esprit, puis ensuite être rempli de cet Esprit après la nouvelle naissance. Si quelqu'un est vraiment né de nouveau, il est devenu une nouvelle création. Il est devenu un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouveau. Est-ce biblique? Pouvons-nous en faire l'expérience? Oui, nous devons l'expérimenter. C'est aussi ce que frère Branham a souligné dans son sermon, la nouvelle naissance. Ce n'est pas seulement vous pourriez ou vous pouvez naître de nouveau. Vous devriez, mais vous devez naître de nouveau. Sinon, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Après la nouvelle naissance, il faut encore se débarrasser de certaines choses. Et c'est peut-être le point que certains ne comprennent pas. Aujourd'hui, je vais devoir m'imposer une contrainte absolue pour ne pas être à nouveau dévoré par le zèle du feu de Dieu et tomber dans un rythme qui ne convient pas à ma voix ou dans un volume sonore. Je crois que cela ne dépend pas de moi ou de la rapidité ou de la force de la proclamation qui est audible acoustiquement, mais il s'agit de ce que la présence de l'Esprit de Dieu en toi, en tant que récepteur, est-ce que la volonté de la disposition à écouter chaque parole, à la recevoir et à lui dire Amen intimement et dans ton cœur. Nous allons examiner certaines choses avec l'aide de Dieu et j'espère et je crois que Dieu est présent et qu'il produit dans ses réunions des fruits pour l'éternité. Pour l'éternité. Qu'il se passe dans ces réunions ce qui n'est encore jamais arrivé si profondément, si fondamentalement, si dans toute sa largeur, sa circonférence, dans tout son volume, qui peut être une bénédiction pour nous et pour beaucoup d'autres. De nombreuses paroles de Dieu sont devant mes yeux, sont dans mon cœur, et nous allons en parler. Dans un seul but, édifier l'Église du Dieu vivant, la rendre capable, apte à exercer le dernier ministère qui l'attend, le ministère de l'Église. Et si quelqu'un pense encore que oui, Dieu n'utilisera qu'un seul homme, alors il faut qu'on vous le dise. Dieu utilisera son corps. Il utilisera chaque membre, tous les membres. Tous seront utilisés, chacun dans son domaine et dans sa tâche. Vous savez que Dieu a envoyé des individus pour porter le message. Mais le message n'était pas destiné à un seul individu, mais à l'ensemble de l'Église. N'était pas adressé à un seul individu, mais à l'ensemble de l'Église. Nous devons le savoir, Dieu a toujours parlé à l'ange de l'Église. Nous l'avons compris. Mais qui a été adressé en dernier lieu? L'Église, l'ensemble de l'Église. Et c'est pourquoi il est écrit au début de chaque écrit à l'ange de l'Église. Et à la fin, il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit a à dire aux Églises. Il n'est pas écrit ce qu'il a à dire à l'ange, mais ce qu'il a à dire aux Églises. Ces jours aussi, nous devons entendre ce que l'Esprit a à dire aux Églises. Nous devons y répondre. Et comme je l'ai déjà dit, chacun individuellement doit s'attendre à recevoir ce que Dieu a promis. Je voudrais également mentionner ce point afin qu'aucun esprit d'idolâtrie ne prenne place parmi nous. Lorsque dans le christianisme, primitif. L'église primitive s'est réunie pour prier. Ils n'ont pas prié pour un seul, mais pour tous les serviteurs. Donne à tes serviteurs, au pluriel, la puissance pour annoncer ta force, ta parole, pardon, avec assurance. À tes serviteurs. Notre bien-aimé frère Joseph Baranowski, qui vient de rentrer du Zaïre, a dit, frère Franck, cela va te faire mal, ce que je vais te dire maintenant. Mais les gens font de toi et de frère Branham une chose qui dépasse l'entendement. Et je vais faire, et ça c'est frère Franck qui le dit maintenant, et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour briser cela. Et si je n'y parviens pas, Dieu le fera. Afin que les hommes soient confondus et tournent leur regard uniquement vers le Seigneur, sans regarder un homme. La dernière chose qui pourrait nous arriver, c'est que les hommes fassent de nous quelque chose. Je sais que l'esprit d'idolâtrie n'est pas jeune. Oh, il est très vieux. Mais il ne doit pas être au milieu de nous. L'Esprit de Dieu doit régner au milieu de nous. Vous savez qu'à l'époque des apôtres, deux choses se sont produites l'une après l'autre. Lorsque de grands miracles et signes se sont produits, le peuple s'est écrié. Les dieux ont pris forme humaine. Et ils se sont mis à offrir des sacrifices aux apôtres. Et qu'a fait Paul? Il a déchiré ses vêtements et a dit, nous ne sommes que des hommes comme vous. Les choses restent là. Un mandat divin, un appel divin ne fait pas d'un homme plus qu'un enfant de Dieu comme tous les autres. Nous ne sommes pas plus qu'un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas plus que les autres. Seule la responsabilité est plus grande. Ne m'en veuillez pas si je fais ici une telle remarque de manière tout à fait officielle. Mais le fils du prophète se laisse appeler Seigneur. Les gens viennent le voir et lui disent « Good morning, Lord. Good morning, Lord. » Si jamais un homme devait être mis à la porte, ce serait le moment où quelqu'un tenterait de le faire de cette manière avec moi. Ah, je n'ai pas dit cela en allemand. Je pars toujours du principe que chaque Allemand comprend deux ou trois langues, au moins l'anglais, qui est si proche de l'allemand. Les gens disent effectivement « Bonjour Seigneur ». Au lieu de dire « Monsieur », comme il se dit « Sœur », quand il s'agit d'un inconnu ou quand on ne se tutoie pas, ou « Brother », comme il se devrait quand on est frère. Non, l'esprit de l'idolâtrie, qu'il soit banni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois pour toutes, nous ne sommes plus que poussière et cendre. Et Paul dit, le Seigneur nous a donné la dernière place à nous les apôtres. Nous sommes devenus comme la balayure. Il y a des choses qui doivent être dites, car nous attendons tous que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, se déverse, tombe, se répande. Nous avons dit ces jours-ci que le temps est proche. Nous avons également dit le temps est venu, est là. Et le temps est maintenant vraiment là pour nous de marcher vers la perfection. Je vais lire quelques paroles à ce sujet, mais levons-nous encore une fois et prions tous ensemble et présentons la réunion au Seigneur. Père céleste, nous venons devant ta sainte face et souhaitons vivre un service divin au Seigneur comme si tu étais assis ici, comme si tu étais assis ici à ma droite et que j'étais et suis conscient que tu écoutes, que tu es présent et que je porte une responsabilité devant ta sainte face. Seigneur, puisse-t-il en être de même pour nous tous, que nous en soyons conscients et que nous soyons conscients que nous ne sommes pas réunis devant des hommes, mais devant la face de Dieu afin que Dieu puisse nous parler. Nous te prions, Seigneur fidèle, d'accorder la compréhension, de donner la révélation, d'accorder la grâce, afin que nous soyons sortis de l'enfance. Éloigne de nous toute absurdité, tout ce qui n'est pas en accord avec la connaissance parfaite de ta parole ou avec la révélation que tu as donnée. Seigneur, fais de nous, fais que nous soyons un. Un en toi, un dans ta parole, un dans ton esprit. Sois la tête et nous le corps. Seigneur bien-aimé, prions, nous prions ensemble comme au commencement du temps, comme au début du temps des apôtres. Étends ton bras. Vois la fureur des nations et la propre et les propres pensées des peuples qui se sont levés contre toi et ton oint et donne à tes serviteurs la puissance d'annoncer ta parole avec assurance en étendant ton bras et en permettant que sous la proclamation de ta parole s'accomplissent par la parole prononcée de grands miracles et des signes. Que personne ne dise plus, frère, un tel m'a imposé les mains et puis cela est arrivé. Mais que tous confessent, Dieu a envoyé sa parole et nous a guéris. Seigneur, à la fin, ce n'est pas un homme qui est au centre, mais à la fin, c'est toi qui es au centre, comme Seigneur, comme tête de l'Église, élevé, glorifié, au-delà de toute mesure, Seigneur. Nous te demandons ta bénédiction toute particulière et la conduite de ton Saint-Esprit au nom saint de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je reviens très brièvement sur les versets qui ont été déjà lus, tirés du psaume 85, verset 10. Psaume 85, verset 10. En vérité, son salut est proche de ceux qui le craignent. Qui connaît les Saintes Écritures et sait qu'il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, une sainte crainte, doit revenir dans l'Église. La crainte de Dieu, la crainte devant sa parole, la crainte de sa parole, que chacun ne pense pas pouvoir manier la parole comme bon lui semble, mais que nous nous inclinions tous sous la main puissante de Dieu, que nous nous soumettions à sa parole et que nous soyons prêts à faire sa volonté. En vérité, son salut, relu le verset 10, est proche de ceux qui le craignent. On pourrait dire immédiatement, bien-aimés sœurs et bien-aimés frères, si tu crains le Seigneur, le salut de Dieu est très proche de toi. Et le Seigneur pourrait dire, aujourd'hui, le salut est venu à cette maison. Le verset 11, ou à cette personne, verset 11, afin que la grâce et la fidélité se rencontrent. Cela aussi en fait partie. Beaucoup veulent la grâce de Dieu parce qu'ils ne veulent pas se perdre. Ils ne veulent pas périr. Qu'en est-il de la fidélité en toutes choses envers Dieu et sa parole? Puisse désormais ceux qui ont reçu la grâce de Dieu être trouvés fidèles, qu'ils puissent être trouvés fidèles devant Dieu, fidèles en toutes choses. Je pense ici à la parole de l'Épître aux Hébreux, où il est dit de Moïse qu'il était fidèle dans la maison de Dieu. Et Christ, comme fils, est fidèle dans sa maison. Et sa maison, c'est nous. Dieu cherchait une demeure. Et il a dit, « N'est-ce pas ma main qui a créé toutes ces choses ? Mais où est le lieu de mon repos ? Le ciel est mon trône et la terre le marchepied de mes pieds. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ?» Et nous apprenons ensuite que l'Église est devenue la demeure de Dieu. De même que Dieu était en Christ, Christ est dans l'Église. Bien-aimés sœurs, bien-aimés cœurs et frères, sœurs et frères, comptez donc personnellement sur cela. Ne regarde pas toujours devant en disant « Oui, nous attendons avec tant d'impatience que Dieu utilise notre frère. » Est-ce la bonne attitude? Ce n'est pas la bonne attitude, non. Dieu a déjà utilisé le frère pour transmettre ce que Dieu nous a donné par grâce. Maintenant, nous sommes tous interpellés et nous sommes tous concernés, pas seulement un seul. Et je vous le dis aussi très clairement. Si vous attendez seulement que Dieu me bénisse ou qu'il bénisse encore le frère Rousse, certains sont généreux, ils peuvent même compter jusqu'à deux. Et peut-être si cela s'améliore encore jusqu'à trois, et alors ils sont au bout de leur latin, n'est-ce pas? Cela ne doit pas se passer ainsi. Nous sommes une église, l'église du Dieu vivant, le peuple qui a été choisi comme propriété, un sacerdoce, une royauté de notre Dieu. Il est notre souverain sacrificateur à tous. Il est notre roi à tous. Nous, en tant que totalité, formons son peuple. Il n'y a pas de système à un seul homme dans le royaume de Dieu. Dieu se sert d'un seul, mais alors tous sont interpellés et alors tous sont concernés. Passons au chapitre 6 des Hébreux. Hébreux, chapitre 6, une parole très importante qui nous interpellera tous. Verset 1, Hébreux 6, verset 1. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les fondements de base de l'enseignement du Christ et nous élevant jusqu'à la pleine maturité, ne posons pas une fois de plus les fondements sur la repentance, sur le changement de nos sens, sur se détourner des œuvres mortes et avoir la foi en Dieu. Mais il continue encore. Vous remarquez sur quoi est-ce que Paul, qui à 100% avec sûreté, est celui qui a écrit la lettre aux Hébreux. Et cela est visible très clairement dans le dernier chapitre de l'Épître. Paul était l'homme que Dieu pouvait utiliser pour ordonner les dons, pour mettre tout ce qui est doctrinal et tout ce qui concerne l'enseignement à sa place dans l'Église, là où les choses ont leur place et dans leur contexte. Il avait été établi par Dieu pour cela. Et il nous est dit ici, c'est pourquoi laissant les fondements de base de l'enseignement du Christ. Et nous avons constaté hier encore que nous avons eu des manquements avec les fondements de base de l'enseignement de Christ sur la repentance, sur le changement de nos sens, sur le baptême d'eau, cette fois. Nous avons là eu des manquements. Nous avons été très courts. Frère Rousse le sait et peut en témoigner. Nous avons parlé plusieurs fois ensemble de l'état aussi de l'Église. Et je me suis demandé, nous nous sommes demandé l'un à l'autre, à quoi cela était dû. Et j'ai alors dit textuellement, si j'avais été le seul à prêcher, ou si tu avais été le seul à prêcher, ou si nous avions été les seuls à prêcher tous les deux, nous serions maintenant entièrement responsables de l'état actuel de l'Église. Que l'état de l'Église soit tel qu'elle est encore. Que l'état de l'Église soit tel qu'il est un état, qu'il est encore maintenant. Puis j'ai ajouté et dit, mais nous avons traduit ici les prédications de l'homme de Dieu, les prédications du prophète, du plus grand prophète depuis les jours de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste. Nous les avons imprimées. Ils ont été envoyés. J'ai dit, si nous cherchons la faute chez nous deux, alors oui, nous devons aussi aller chez lui et chercher la faute chez lui. Pourquoi les choses n'ont pas encore changé? Pourquoi nous sommes encore dans ce que j'appellerais par son nom un état déplorable? Mais nous ne pouvons pas rester dans cet état. Nous sentons qu'il n'est pas l'état final, qu'il n'est pas ce que Dieu a voulu. Et parce que nous le sentons, je crois pouvoir dire que le fait même de reconnaître que nous ne sommes pas encore ce que Dieu veut faire de nous, cela est déjà le premier chemin vers l'amélioration. Ce n'est pas seulement une expression populaire, mais c'est vrai. Si quelqu'un, comme on le dit à l'époque de l'église de Laodicée, parle ainsi, je suis riche, je n'ai besoin de rien, et ainsi de suite, nous serions dans une situation très difficile. N'est-ce pas? Le Seigneur devrait alors nous dire, tu ne sais pas que tu es pitoyable, misérable, pauvre et nu. Et justement, l'ajout, et tu ne le sais pas. Frère Branham vient de dire, dans ce contexte, c'est déjà grave quand un homme est nu. Mais si ensuite il ne le perçoit même pas, si ses sens sont étourdis et qu'il ne sait même pas dans quel état il se trouve, oui, alors il n'est pas seulement nu. Il y a aussi quelque chose qui ne va pas quelque part ailleurs. Mais Dieu nous a fait la grâce de nous permettre de regarder dans le miroir de la parole. De nous permettre de regarder. Et nous confessons que c'est là aussi que Dieu a raison. C'est là notre véritable état. Pouvez-vous tous dire amen à cela? Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas l'état final. Ce n'est pas la fin. Après cela, le Seigneur dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, purifié par le feu, ou bien alors dans le feu. » Je devrais peut-être le lire pour être sûr d'avoir les choses telles qu'elles sont écrites. Il est toujours préférable de ne pas se contenter de répéter les Écritures ou de les citer de mémoire, mais de les lire ainsi. Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Je ne vais pas répéter le reste, car nous le connaissons aussi par expérience et pas seulement d'après le texte. Le verset 18 dit, je te donne donc ce conseil, achète-toi de moi de l'or purifié par le feu, afin de t'enrichir, et des vêtements blancs, afin de les revêtir et de ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu puisses voir. Comme Dieu est fidèle. Et c'est justement dans la dernière lettre, dans le dernier écrit, qu'il se présente à nous de cette manière. Peut-être devrais-je le lire ici au verset 14. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ainsi parle celui qui est l'Amen. L'Amen. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 19 et 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Il est oui et Amen. C'est ainsi qu'il se présente dans le dernier âge de l'Église. Ainsi parle celui qui est l'Amen. Que signifie Amen? Il en est ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Comme il a dit, il en est ainsi. Et nous disons Amen à cela, parce que nous sommes d'accord avec la chose. Ainsi parle celui qui est l'Amen. Maintenant écoutez ce qui suit, ce qui va suivre. Le témoin fidèle et véritable. Il y avait beaucoup de témoins. Vous pouvez le lire dans l'épître aux Hébreux où il est dit, parce que nous sommes entourés d'une telle nuée de témoins. Vous pouvez lire Ésaïe 43. Le Seigneur a dit, vous êtes mes témoins et je suis votre Dieu. Vous pouvez lire Actes des Apôtres, chapitre 1. Vous serez mes témoins. Mais ici, c'est le Seigneur lui-même qui se présente comme le témoin. Ici, il n'appelle pas les prophètes et les apôtres. Ici, il marche lui-même au milieu des sept chandeliers d'or. Ici, il parle et dit à l'Église ce qu'il à lui dire avant d'abaisser le marteau de la le marteau du blâme. Il se présente à l'église et dit, ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, le témoin fidèle et véridique. Nous sommes de nouveau dans le sujet, le commencement de la création de Dieu. Dieu a fait un nouveau commencement en Christ. Il est le premier-né au milieu de plusieurs frères, engendré par l'Esprit. Cela aussi, nous l'avons dit clairement. Comme cela a commencé avec Christ, le premier-né, il devra en être de même avec tous les premiers-nés. Comment la parole s'est faite chair? La parole de la promesse fut apportée à Marie. Et elle a dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, comme tu l'as dit. » C'est ainsi que la parole s'est faite chair. En ces jours, la parole de la promesse nous est adressée. Dans quel objectif? Pour quel objectif? Pour que les fils de Dieu naissent, pour qu'ils puissent être manifestés. Beaucoup, oui, trop même, de gens parlent avec beaucoup d'enthousiasme. Oh, nous sommes devenus manifestes comme fils de Dieu. C'est un triste spectacle, une honte pour Dieu. Et on voit que des querelles et des disputes, des divisions, des séparations, des méchancetés de toutes sortes. Et puis dire, nous sommes des fils de Dieu, non. Et encore une fois, non. Ce n'est pas ainsi. Si oui, alors à l'image de Jésus-Christ. Car c'est ainsi que c'est écrit. Oui, je préfère vous le lire pour que vous sachiez tout ce que c'est écrit. Je n'étais pas non plus préparé à cela maintenant. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Je dois lire très brièvement de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Versets 48 et 49. Vous pouvez lire plus de versets. Tel quel l'homme, terrestre donc Adam, tel aussi sont les hommes terrestres. 1 Corinthiens 15, verset 48. Et tel quel l'homme céleste, tel aussi sont les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Et il est écrit, on ne peut puiser à une même source une eau douce et une eau amère. Qu'est-ce qui jaillit encore ainsi du cœur des hommes, n'est-ce pas? Et là aussi, personne ne peut ou ne doit se tromper. Quand le cœur est plein, la bouche déborde. C'est du contenu du cœur que la bouche parle. Et puis Jacques écrit, « Celui qui ne tient pas sa langue en bride, son culte et son service divin est en vain. » Et chacun pense qu'il peut bien dire ce qu'il veut et penser ce qu'il veut sur tous. Et que tout se passera bien et qu'il pourra comme ça s'en sortir. Non, ce n'est pas comme ça que ça marchera. Dieu veut de la crainte. Il veut mettre et ramener la crainte dans sa crainte, dans son peuple, dans l'Église. Sans la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, rien n'arrivera, rien ne se fera, rien ne se passera, rien. Ensuite, il est dit ici, plus loin au verset 15 dans Apocalypse 3, peut-être que nous devrions le lire pour aussi devrions lire pour confirmer cela aussi par un oui et par un amen. Si nous affirmons le deuxième état, nous devons avoir reconnu aussi le premier et l'avoir également affirmé ici. Le Seigneur dit au verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais dites-moi. Maintenant, dis-moi franchement, n'est-ce pas là notre état? Nous ne sommes pas glacés ou froids, on ne pourrait pas nous le dire. Mais sommes-nous brûlants? Sommes-nous brûlants? Nous ne le sommes pas, justement. Disons-le franchement, nous ne le sommes pas. Oui, que sommes-nous alors? La parole de Dieu n'a-t-elle pas raison? Et je demande maintenant consciemment, est-ce que nous reconnaissons tous que c'est notre état? Vraiment tous? Du fond du cœur? Nous y l'avons. Nous y voilà. Nous y sommes. C'est notre état d'esprit. Et ne vous étonnez pas qu'au début de cette année, Dieu commence avec nous de cette manière. Pensez-vous que j'ai déjà lu cette parole quelque part aujourd'hui, avant la réunion? Absolument pas. Absolument pas. J'ai même pas pensé à la lire. Oui, comment en venons-nous à cela alors? Mais par la conduite du Saint-Esprit, j'en suis convaincu. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Son heure est venue. Il a dit un jour, alors qu'on l'appelait, votre temps est toutes les voies, mais mon heure n'est pas encore venue. Notre temps a toujours été déjà. Mais maintenant, c'est vraiment le temps de Dieu. L'heure de Dieu. Qu'il se lève et fasse quelque chose. Quelque chose de sublime. Qu'il soit au-dessus de tout soupçon, de tout doute. Que personne n'ait plus besoin de demander. Oui, est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a fait? Que les hommes puissent savoir que c'est lui qui l'a fait. Quand, comment et où cela se fera-t-il? Cela se fera à l'heure de Dieu, au moment qu'il a fixé, mais par l'Esprit qui est son corps. D'où cette préparation à dire simplement oui, c'est ainsi que l'état est décrit ici. Pensez-vous qu'il me soit facile de dire cela? Non, pas du tout. Mais j'avoue très librement et ouvertement, c'est mon état tel qu'il est écrit ici. Et je le dis au dernier qui voudrait peut-être encore un peu le masquer ou le surjouer ou l'ignorer ou s'en détourner. C'est aussi ton état. Nous sommes dans un état tiède. Une question. Si nous savons que la venue du Seigneur est directement à la porte et que nous avons reçu le dernier message divin comme avertissement justement, comme mise en garde et pour l'appel à sortir et le rappel à l'ordre, à combien de personnes as-tu fait parvenir ce message? Avais-tu à cœur de mettre en garde le peuple, de leur dire ton environnement, nous vivons maintenant dans tel et tel temps, Dieu a fait ceci et cela, voici une prédication, lisez-la, et si vous voulez savoir plus, laissez-le-moi savoir. Qui a fait quoi? Qu'en était-il avec les premiers chrétiens? Il est dit que lorsque la persécution a éclaté à Jérusalem, les croyants se sont dispersés partout. Et savez-vous ce qui est écrit? Et ils ont prêché le royaume de Dieu. Et c'est ainsi que cela s'est répandu. Qu'avons-nous fait de ce que Dieu nous a confié? Nous avons certainement parlé de la fin des temps, de bien des choses, des catastrophes, des tremblements de terre et de tout ce qui va avec, de l'effondrement de la monnaie mondiale peut-être, et de bien d'autres choses aussi. Mais avons-nous pu dire aux personnes qui nous sont proches, avec lesquelles nous sommes en contact, avons-nous pu leur dire avec amour, avec tact, écoutez, je vous le dois ou je te le dois, je dois vous le dire, c'est mon devoir. Car que dit Dieu dans Ézéchiel 33? Si je te parle et que tu avertis et que si je te parle et que je te dis d'avertir le méchant et que tu ne le fais pas et que le méchant meurt dans son péché, je te redemanderai son âme de ta main. Quelqu'un pourrait alors dire oui, de toute façon les gens n'écoutent pas, ne veulent pas écouter. C'est justement le prophète Ézéchiel à qui le Seigneur a dit qu'il t'écoute ou non. qu'ils sachent qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Mais pas que vous alliez maintenant dire, oh, le prophète, le prophète, le prophète. Ce n'est pas non plus la bonne méthode. Cela en fait partie, mais vous devez placer la chose, et dans ce cas, votre témoignage, le placer sur le fondement biblique. Et alors, bien sûr, vous devez déjà sortir avec la chose et dire, Dieu a eu un homme qui a reçu une vocation particulière, un appel particulier, et qui a reçu la révélation des promesses et en général les mystères qui étaient restés cachés. Cela en fait alors partie. Mais ce n'est pas vraiment comme ça. Avec ça qu'il faut commencer, ce n'est pas l'ouverture. Il faut avoir une introduction. Combien souhaite être utilisé une fois par Dieu? Être vraiment utilisé, nécessaire à Dieu. Donner un tel témoignage que les gens en ont assez pour toujours. Nous savons comment cela fonctionne, n'est-ce pas? Nous traitons les gens de telle sorte qu'ils en ont assez pour toujours. Si seulement Dieu pouvait faire de nous des personnes qu'il peut d'abord bénir, qui sont même abordées par les autres, et à qui les autres demandent ce qu'il en est vraiment de vous et chez vous. Je connais un homme, un frère assis ici, qui le connaît bien aussi et qui a dit à quelqu'un, j'ai déjà parlé plusieurs fois avec M. Franck, mais je ne comprends pas du tout pourquoi il ne m'a pas encore invité à un service divin. Et je sais que Dieu l'a déjà tenu par les... J'allais dire les jambes. Non, ce n'est pas correct. Dieu le tient déjà par la main, mais j'attends encore un peu. Vous voyez, les gens l'attendent. Ils s'attendent à ce qu'on leur dise. Mais maintenant vient la question. Nous ne faisons pas non plus de secret à ce sujet. Que rencontreraient les gens parmi nous s'ils étaient amenés aujourd'hui? S'il répondait à l'invitation, qu'est-ce que les gens trouveraient ici aujourd'hui? Rencontreraient-ils ici le royaume de Dieu? Que trouveraient-ils? Telle est la grave question. Dieu merci que les foules ne sont pas encore venues. Oui, maintenant, frère Knitt se gratte la tête. Oui, et puis il dit encore, mais c'est vrai. Oui. Mais soyons honnêtes, pour une fois, soyons reconnaissants que les masses ne soient pas encore arrivées. Sinon, elles seraient reparties. Elles seraient reparties. Elles auraient dit, et c'est le même homme qui l'a dit, qu'il a d'ailleurs beaucoup, beaucoup à faire avec les croyants. Pas ici, bien sûr, mais ailleurs. Nous ne parlons jamais des gens qui sont ici autour de nous, cela s'est passé ailleurs, dans un tout autre pays. Et il m'a dit lors de notre dernier entretien, « Monsieur Franck, ne m'en voulez pas, mais j'ai eu affaire par la force des choses à un certain nombre de croyants et j'ai en partie rencontré des gens qui vous connaissent et qui vous apprécient et qui sont servis par vous. Et puis, le coup de massue est arrivé, de marteau. Et puis, il a dit, « Mais je n'ai encore jamais rencontré autant de querelles et de disputes, autant de calomnies, de médisances, autant de méchanceté. » Vous l'avez maintenant. Un homme passe la nuit chez des croyants. Et ceci lui parle en lui disant qu'il doit croire au message. Dieu a envoyé un prophète, ne le savez-vous pas? Vous connaissez partout M. Franck? Oui, il dit oui, je le connais. Je préfère ne pas en dire plus. Je veux me l'épargner et à vous aussi. Heureusement qu'aucun de ceux qui sont ici ou qui pourraient être ici ne sont concernés. Mais il pourrait nous arriver de sortir et de faire comme cette femme après le sermon puissant et dur de frère Branham. Elle l'a attrapé à la sortie. Il avait toujours une sortie supplémentaire parce qu'il ne voulait ou ne pouvait pas se mêler au peuple. Et elle a dit, « Frère Branham, dans ton sermon, tu as vraiment fait la leçon à tout le monde. Mais moi, cela ne m'a pas atteint. » Et plus tard, le même frère Branham dit qu'un jeune prédicateur est venu le voir et lui a dit, « Cette femme, est la plus grande lavandière qu'il y ait dans toute la ville. » Une expression pour dire qu'il parle trop, une femme qui parle trop. Elle n'a fait que du mal avec sa langue. Mais dit, tu as fait la leçon à tout le monde, mais ça ne m'a pas touché. Bien-aimés, faisons partie de ceux qui sont encore touchés. Que cela encore concerne, qui sont encore interpellés, que cela concerne, ce n'est qu'alors que Dieu pourra réellement nous aider. Combien d'entre vous pensez que Dieu fera encore en sorte que d'autres entendent ce qu'il a fait dans cette génération? Oh oui, Dieu y veillera. Maintenant, nous devons créer l'atmosphère. Frère Branham a aussi parlé de cela. Il a dit que lorsque des œufs sont pondus, c'est la chaleur, l'atmosphère qui fait que la vie en sort. Il y a aussi des nids avec des œufs pourris. Il faut qu'il y ait de la chaleur pour qu'une nouvelle vie apparaisse. Oui, avons-nous la chaleur du nid ici? Est-ce que les gens trouveront cette chaleur ici s'ils viennent? Un visage rayonnant de sincérité et d'honnêteté, rempli de l'amour de Dieu, que l'on pourrait dire sincèrement, comme je suis heureux de te revoir. Et si l'on pouvait dire, frère, je t'aime, que ce serait vraiment comme ça, que ce serait vrai, que ce serait pas seulement des paroles qu'on fasse, qu'on dise, qu'on prononce, mais que nous faisons, mais qu'il y ait toute l'action, tout notre cœur et toute notre vie derrière ce que nous disons. Et c'est là que Jean dit dans la lettre que nous sommes obligés même de donner notre vie les uns pour les autres, de nous aimer comme le Seigneur nous a aimés lui-même, qui a donné sa vie pour nous. Nous sommes passés à côté de certaines choses et même probablement de toutes ces choses dans la pratique. Et figurez-vous que pour autant que je le sache, nous avons tous déjà, ou la plupart d'entre nous, compté et attendu l'enlèvement. Oui, oui, dans quel état d'esprit nous y sommes-nous attendus? Remercions Dieu de ce que le Seigneur ne soit pas encore revenu. Êtes-vous d'accord avec cela? Je ne l'entends pas de tous. Je suis peut-être sourd d'oreille, mais cela ne fait rien. Remercions le Seigneur qu'il ne soit pas encore revenu. Sinon, ce serait la grande clameur ici. Sinon, ce serait ici le grand cri. Remercions le Seigneur pour sa grâce. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens. Je l'ai souvent exprimé. Je ne voudrais pas seulement avoir prêché. Je voudrais que tous ceux qui entendent la parole que Dieu a révélée pour ce temps et qui la croient, que tous soient scellés après avoir entendu la parole de la vérité et après avoir cru. Cela aussi, nous devons tous le savoir, je vais vous le lire. Parce que les gens peuvent être baptisés même de l'Esprit du premier coup. Mais le scellement se fait après que nous ayons entendu et reçu et cru la parole de la vérité. Je vous le lis dans Éphésiens, le chapitre 1. Ici, il est écrit au verset 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, le message de votre salut, l'évangile, et après l'avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit promis. Ici, il n'est pas question ici d'onction, mais il s'agit ici d'un sceau. Pensez-vous à la prédication de Frère Branham, en particulier sur le sermon, le cri de détresse et le signe, être poussé à bout, et puis le signe, il donne l'exemple du wagon de chemin de fer que l'on charge, et puis l'inspecteur arrive et secoue un peu, et tout tombe en désordre. Et alors il dit, alors, pas comme ça. Je ne peux pas plomber ici. Je ne peux pas opposer, appliquer le signe. Je ne peux pas sceller comme ça. Tout doit être bien rangé, bien emballé et bien ordonné. Le temps est arrivé de mettre les choses en ordre afin que le sceau de Dieu puisse être appliqué sur nous ou alors descendre sur nous. Nous avons très clairement compris que l'onction vient sur tous. La pluie tombe sur les justes et les injustes. Le soleil brille sur les méchants et les bons. L'onction de l'esprit ne signifie rien en soi. Rien du tout. Selon les estimations, je l'ai déjà dit ici, il y a sur la côte ouest de l'Amérique, en particulier en Californie, dans la région de Los Angeles et de Santa Barbara et jusqu'à San Francisco, il y a des millions, et je ne sais pas si 10 millions suffisent des gens du plein évangile, des églises pentecôtistes, qui reçoivent tous l'esprit, qui sont tous loin de l'esprit, et qu'on ne me dise pas que c'est un faux esprit. Non. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit qui est faux. Ce sont les gens qui sont faux. Parce qu'ils n'ont pas reçu en eux la semence incorruptible divine de la parole de Dieu. Et vous savez là aussi ce qu'a dit Frère Branham. Lorsque l'une des dames à talons aiguilles, a simplement crié aux autres, « Vous n'avez pas besoin d'écouter ce fou. Je vais vous prouver que tel que je suis, je peux marcher sur le chemin avec le Seigneur. » Et elle y est allée aussi. Et puis, elle est tombée et s'est précipitée dans l'abîme en poussant un grand cri. Combien sont loin du Saint-Esprit? Et maintenant, quand j'étais en Afrique, j'ai lu les statuts des hommes d'affaires chrétiens. Et la première chose, écoutez bien, c'est, ils disent que c'est la croyance en la Trinité divine. Je n'en reviens pas. L'homme qui a encore vu Charles Price dans ses derniers jours et ses dernières années, et l'homme qui a connu William Branham dans les premiers jours de son ministère et qui a vu et assisté à tant de choses comme personne d'autre sur terre. L'homme dont la sœur s'appelait Nightingale et Frère Branham a vu à 2 heures, elle va mourir, et a appelé les démons en disant, j'ai quelque chose à te dire. Des hommes qui ont vu, qui ont tout vu et tout entendu. Et puis, il est écrit dans leur statut, celui qui n'accepte pas cela ne peut pas devenir membre. Ou bien non, ne peut pas adhérer. C'était au moins la bonne phrase de l'histoire, n'est-ce pas, de leur statut. C'était la meilleure phrase. Je ne vois pas je ne vois pas pourquoi je devrais devenir membre du corps de Jésus me suffit. Mais membre, ce serait un membre de trop, hein, des membres, oui, mais des adhérents, non. Mais pourquoi je dis cela? Partout des choses puissantes. Oh, l'esprit conduit et tout se va et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Je pense à l'homme qui a imposé les mains au cardinal Béa au Vatican pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et quand il a été ainsi secoué par la tête, les gardiens sont venus le libérer car ils pensaient que ses deux frères l'avaient agressé. Et il l'avait littéralement agressé. Aujourd'hui, tout est tellement mélangé. Les fils de Dieu ont pris les filles des hommes. Et il y en a qui entendent parler des jours de Noé. Et puis ils disent, oh oui, jour de Noé, manger et boire. Nous le faisons tous. Ce n'est pas si nouveau. Et libre et se marier. Et marier, nous le faisons tous aussi. Ce n'est pas non plus nouveau. Ou est-ce que c'était seulement autrefois? À l'époque, quoi? S'il vous plaît. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est pourtant écrit. Ils se sont mariés et ont marié. Et mangeaient et buvaient. N'étais-tu pas marié? N'as-tu jamais mangé et bu? Tous les hommes n'ont-ils pas fait la même chose, croyant ou incroyant? Quel était le point? Lorsque les fils de Dieu virent la beauté des filles des hommes et que la lignée de Dieu par Zeth, d'où devait naître le Christ selon la chair de la postérité de David, se sont mêlés à la lignée de Caïn. C'est là que Dieu a dit, la fin de toute chair est venue devant moi. Et juste à ce moment-là, Dieu a envoyé un prophète. Et il donna le message. Et qu'est-ce que c'était? Les fils de Dieu sont entrés dans la danse et ont tourné le dos au prophète de Dieu. Et vous savez quoi? Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu nous a aussi révélé. Lorsque le Seigneur Jésus est mort et que son corps a été déposé dans le tombeau, il est descendu prêcher aux esprits en prison. Et je vous demande, quelle génération a vraiment été prêchée? À quelle génération il a vraiment prêché? À quelle? Pardon? Ah, au temps de Noé, a dit un frère. Et je vous le lis cela maintenant pour que vous sachiez quel jugement sera prononcé sur les fils de Dieu qui ont tourné le dos aux prophètes et aux messages divins et qui se sont moqués de lui. Ils auront à répondre à une question comme aucune autre génération depuis les jours de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous le lis pour que vous sachiez que c'est écrit. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 13. Pardon, à partir du verset 18, 1 Pierre 3, à partir du verset 18. Car le Christ aussi est mort une fois pour les péchés, comme le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, lui, qui a été mis à mort dans la chair, mais qui est ressuscité à la vie par l'Esprit. Maintenant, écoutez, c'est aussi un esprit qu'il alla prêcher aux esprits en prison, c'est-à-dire à ceux qui avaient autrefois désobéi lorsque la patience de Dieu attendait patiemment au jour de Noé. Vous verrez que nous avons la même image devant les yeux. Les églises qui ont blâmé le Conseil mondial des églises et Rome jusqu'à ne plus pouvoir le faire, sont toutes devenues membres. Elles se sont agenouillées. Toutes font la cour. Toutes font la cour. Elles veulent toutes participer. Et tout le mouvement du plein évangile s'est éloigné de la parole. Et tous sont devenus des organisations et des dénominations, s'unissant tous et faisant une seule chose au lieu de marcher avec le message prophétique. Tout comme il y a eu au jour de Noé un mélange de ces deux lignées séparées l'une de l'autre dont le Seigneur Dieu avait dit sur place dans le jardin d'Éden, je mettrai inimitié en ta semence et leur et sa semence, en ta semence et leur semence, etc. Et sa semence. Et Paul explique dans Romains 8 que le Christ devait venir selon la chair de la postérité de David. À l'époque, la lignée divinement bénie agissait de manière profane, mondaine. Ce serait exactement comme si des frères croyants prenaient aujourd'hui des non-croyantes et les mariaient en disant « Oui, qu'est-ce que ça peut bien faire, croire tout court et ainsi de suite. » Et nous nous retrouverions ici devant des chaises vides. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Il y aura un jour de jugement. Et vous pourrez lire d'autres choses. Vous pouvez même lire qu'ils ont été qualifiés d'anges liés par des chaînes en attendant le jour, qui attendent le jour du jugement. Les démons, eux, ne sont pas liés. Et le diable non plus. Il est encore lié. Il n'est pas encore lié. Celui-ci est encore délié. Il est libre. Nous l'avons tous appris à satiété. Quelqu'un, il y a en effet un enseignement dans une croyance qui affirme que nous sommes déjà dans le royaume millénaire et que le diable est lié. Oh, alors, mon Dieu, a-t-il dit, alors je ne veux pas être ici quand il sera relâché. Si, maintenant vous dites qu'il est lié. Non, le diable n'est pas lié et les anges déchus, les démons règnent dans le domaine de l'air et notre combat n'est pas avec la chair et le sang, mais avec les puissances et les autorités, avec les principautés dans l'air. Mais de ces jours-là, et là vous pourrez me prendre au mot au jour du jugement, car j'ai lu de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Il n'est pas écrit des jours de Gédéon ou des jours de Samson ou de n'importe quelle époque, mais de ceux qui étaient au jour de Noé, quand la patience de Dieu attendait et que cet homme a été abandonné à la risée de tous ceux qui étaient là. L'Éternel Dieu y a déjà pourvu et leur a fait la première annonce lorsqu'il est descendu autrefois. Qu'adviendra-t-il de cette génération? Vous remarquez déjà que nous affleurons certaines choses et que nous passons de l'une à l'autre. Revenons au chapitre 6 des Hébreux pour en venir lentement à la conclusion. Mais prenons l'avertissement au sérieux. Lorsque Dieu envoie un prophète, il envoie parce qu'il veut nous parler et nous révéler son plan. Non pas que nous passions outre et fassions comme si de rien n'était. Ici, il nous est demandé, Hébreux 6, verset 1, il relit, de laisser les fondements de base de l'enseignement du Christ et nous élever jusqu'à la pleine maturité et ne pas poser une fois de plus les fondements sur la repentance, sur le changement de nos sens, sur se détourner des œuvres mortes et sur le baptême, mais avoir la foi en Dieu, mais comme Paul l'exprime ici, de nous élever à la stature de l'homme parfait en Christ. Nous avons aujourd'hui reconnu, que c'est en étant honnête que nous nous en sortirons le mieux devant Dieu. En étant sincère et honnête, nous l'avons déjà constaté hier, ici, et nous avons donné raison à Dieu dans le jugement qu'il a porté sur nous. nous nous exclamons et ne nous contentons pas de répéter ce que Paul a dit, mais nous nous exclamons avec un cri profond de notre âme. Oh, malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Car nous avons reconnu qu'il n'y a rien de bon en nous. Avec un cœur sincère, puis nous continuons et confessons ce qui est écrit dans le verset suivant. Grâce soit rendue à Dieu qui l'a accompli par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous poursuivons notre lecture. Il n'y a donc plus rien de condamnable pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frères et sœurs, croyez-moi, il est écrit dans le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens que les choses qui sont arrivées à Israël nous ont été données par exemple. Et vous savez bien tout ce qui s'y est passé. En tout cas, ils ont erré pendant 40 ans. Ils ont fait exactement 40 stations. Exactement 40 stations. Vous pouvez le lire. Mais ils n'ont pas atteint le but. Puis une autre époque, un autre temps s'est installé. Et ils n'allaient plus en rond ou d'un endroit à l'autre du désert. Alors, il a été dit, soyez forts et soyez courageux. Car comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Sois fort, sois courageux au singulier, pardon. Car comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Dis au peuple, dans 3 jours, nous traverserons le Jourdain. Il y avait 2 choses au sein du peuple d'Israël. L'une était la sortie, l'approvisionnement pendant toute la période, bien que le peuple ait désobéi et était désobéissant, Dieu devait se tenir à ses côtés. À cause des autres peuples, Moïse se plaçait toujours dans la brèche et il disait, « Efface mon nom de ton livre, mais laisse le peuple pour que les peuples environnants ne disent pas que tu n'as pas réussi. » Vous connaissez tous les Écritures. Les Saintes Écritures. Puis vint le moment où l'on cessa de tourner, où ils cessèrent de tourner en rond. Le moment où la parole de Dieu qui était dans l'arche de l'Alliance reposait sur les épaules des sacrificateurs avec la promesse de prendre possession du pays de Cana. Je veux dire que c'est le point où nous sommes arrivés maintenant. Pouvez-vous le croire? C'est le point auquel nous sommes arrivés maintenant. Une année de jubilé, une année de grâce, une année de salut. Tous doivent entrer en possession de leurs biens divins, légitimes. Et nous pourrions encore dire beaucoup de choses à ce sujet. Nous avons encore une réunion cet après-midi. Et ce soir, c'est le souper du Seigneur. Avant cela, il y aura un baptême. S'il y a des gens qui veulent se laisser baptiser, qui ont suivi ce qui a été prêché ici hier sur le baptême et qui l'ont observé et mis en pratique. Et là aussi, j'ai été heureux de constater que personne n'a trouvé la chose trop dure, trop sérieuse, mais que tous ceux avec qui j'ai parlé ont dit, frère Franck, c'était la vérité. C'était la vérité. C'est bien ça. Oui, c'est ainsi. Et c'est ainsi que nous avons laissé agir ces choses en nous. C'était des coups. Mais ils nous ont fait du bien. Dois-je vous amener encore une fois à l'Hébreu, à l'Épître aux Hébreux? Je ne crois pas. L'homme de Dieu nous y écrit. Si nous avions été privés de châtiment, nous serions, il est écrit la parole, malheureusement, je suis désolé, bâtards, faux enfants. Mais parce que nous avons reçu le châtiment, nous sommes de vrais enfants. Et celui que le Père Céleste aime, il le châtie. Il éduque pour quelle raison? Pour en faire un enfant de Dieu obéissant. Oh, comme je voudrais que, mes deux fils soient des hommes de Dieu. Amen. Voulez-vous tous prier pour que Dieu le fasse? Comme je voudrais que toute ma maison soit sauvée. Que personne ne manque au jour du Seigneur. Pourtant, j'ai dû souvent j'ai dû châtier. Et comme c'est étrange, mon fils cadet a toujours été ici. Je ne le vois pas encore, mais de temps en temps, il m'a dit, « Papa, je me souviens de la fois où j'ai été battu. » Et alors, je disais, « Mon fils, penses-tu aussi aux nombreuses fois où je t'ai laissé passer sans compter, sans t'attribuer ce que tu as fait. » Et puis c'était bon. Puis c'était bon à nouveau. Oui, notre Père Céleste est un Dieu fidèle. Imaginez-vous qu'il nous laisserait partir. Il ne donnerait rien pour ce que nous sommes devant lui et en train de faire. Et quel Père serait-il? Non. Notre Dieu est un Père fidèle pour tout ce qui est enfant. Sur tout ce qui est enfant. Je vous le dis, le temps est venu pour tous les vrais enfants ou tous les vrais enfants de Dieu doivent subir le châtiment du Seigneur et dire, Seigneur, encore plus, ça me fait du bien. J'en ai besoin. Seigneur, j'en ai besoin. Taille, corrige, reprends-moi, car je veux subsister devant toi. Dieu y veillera. Résumons tout cela. Tout ce que dit le Seigneur est vrai. Notre état de tiédeur nous a rendus malades. À qui cet état dans lequel nous nous trouvons maintenant est-il devenu vraiment pénible? Qui dit simplement, Seigneur, ça va vraiment? Oui, qui peut dire que ça ne va pas vraiment? Que ça ne va vraiment pas? Cela ne sert plus à rien, n'est-ce pas? Non, ça ne peut plus continuer comme ça, n'est-ce pas? Oui, nous y voilà. Et comme je connais Dieu et sa parole, il dit, il fait réussir ceux qui sont sincères. Il accorde la grâce à ceux qui sont sincères. Et je peux vous dire, en raison de l'autorité de la parole, qu'il ne nous laissera pas dans cet état. Il nous placera sur un terrain plus élevé, sur le sol de la victoire de Golgotha. Et il fera de tous ses ennemis son marchepied. Ce n'est pas nous qui aurons peur de l'ennemi. C'est lui qui devra prendre la fuite devant nous. Car le contrat que David a placé, a fait avec Goliath selon la volonté de Dieu est encore valable. Si tu me vainques, mes hommes te seront soumis. Et si je te vainque, tes hommes me seront soumis. Vous connaissez l'histoire. Le combat, l'affrontement a eu lieu avec le fils de David, Jésus-Christ, notre Seigneur et mon Sauveur. Tu n'as plus besoin de te battre avec l'ennemi. N'entame pas même de conversation avec lui, car ce serait un non-sens. Si tu en as besoin, dis simplement, Satan, recule derrière moi. Mais n'ajoute pas de deuxième phrase. N'engage pas de conversation avec le diable. Car nous savons tout cela. Il a trop d'expérience pour que nous puissions rivaliser avec lui. Non, il te mettra des pincettes à un clin d'œil et le tout est joué. Donc le Seigneur, le fils de David, a affronté Satan et l'a vaincu. Et l'a vaincu. Qui doit maintenant être soumis à qui? Pourquoi le Seigneur a-t-il dit, je vous donne pouvoir sur toute la puissance de Satan. Vous marcherez sur des serpents et des scorpions. Et cela ne vous fera aucun mal. Rien ne vous nuira. Ce n'est pas à Satan que le Seigneur a donné du pouvoir sur nous. Il nous a donné le pouvoir sur Satan. Et nous confessons. Jésus est vainqueur. Le serpent a la tête écrasée. Loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur s'est probablement élevé, relevé. Il s'est probablement levé. Je sais que ces réunions sont dans la volonté de Dieu, si jamais elles ont été dans la volonté de Dieu. Je sais que Dieu nous a tous poussés dans nos retranchements, de telle sorte que du premier au dernier, personne ne se présente plus quelque part en levant la poitrine et en regardant l'autre de haut avec mépris. Chacun se reconnaît et dit avec Pierre, « Seigneur, je suis un homme indigne. » Vous connaissez tous les évangiles. Rendons grâce à notre Dieu. Il a avec nous des desseins et des voies d'amour et de paix. Et il fera aboutir tout cela dans la gloire. Il est l'amen, il est la réalisation, l'accomplissement de tout ce qu'il a promis. Il est l'alpha et l'oméga, le début, le commencement et la fin. Rien ne lui échappe. Avec lui, tout est autant convenable et tout se passe selon sa volonté. Il est le témoin fidèle et véridique et notre intercesseur, notre avocat, notre médiateur, par-dessus tout. Il est le commencement de la création de Dieu et nous pouvons faire partie de cette création divine par l'engendrement, né de nouveau et être renouvelé par l'Esprit. En raison de la semence de la parole qui a été déposée en nous. Acceptez cela par la foi. Nous avons été justifiés. Nous ne restons pas dans l'état où nous sommes. Nous confessons que Dieu nous a déjà sortis de cet état, qui nous a déjà dotés de la puissance d'en haut. Il nous a déjà revêtu de la puissance d'en haut et nous le remercions comme si nous l'avions déjà reçu parce que nous savons que sa parole ne trompe pas et que ses promesses ne sont pas annulées. Ce qu'il dit ou promet, il le tient. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeure pour l'éternité. Et sa parole est en nous comme une semence divine. Et ainsi, nous demeurons avec lui, avec la parole, pour l'éternité. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la vie éternelle, par grâce. Loué soit son nom. Amen. Amen. Nous nous levons pour prier. Père céleste, nous te remercions de tout notre cœur. Nous sommes touchés, submergé par ta grâce, par ton amour. Tu nous parles encore comme un père parle à ses enfants qu'il aime, ô Dieu. Bénis-nous tous. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui. Seigneur, fidèle, nous sommes réunis ici devant ta face pour soumettre notre volonté à ta volonté, pour mettre notre volonté dans ta volonté et dire de tout cœur, sincèrement, et le penser vraiment, que ma volonté ne soit pas faite, mais que la tienne soit faite. Et maintenant, je te prie, fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître ton plan, ô Seigneur. Conduis-nous et guide-nous sur la bonne voie, sur le droit chemin à cause de ton nom. Seigneur, nous avons pris conscience de notre état misérable, tiède, paresseux. Mais nous sommes, Seigneur, paresseux nous sommes. Seigneur, nous venons à toi. Tu as dit, je te conseille. Oui, tu es conseillé. Force, Père éternel, prince de la paix. Tu n'es pas seulement conseil, tu es aussi force pour mettre ce conseil en pratique. Seigneur fidèle, nous voici devant ta face. Fais de nous ce qu'il te plaît, ce qui te plaît, ce qui te plaît. Je confie avec la sincérité de mon cœur ma vie personnelle, ma vie spirituelle et l'Église du Dieu vivant, la troupe rachetée par le sang. Je la remets à ta grâce, je la confie à ta grâce, Seigneur, et ta voix avec nous tous, afin que nous puissions vraiment prier de tout notre cœur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, selon qu'il est écrit, donne à ton peuple un esprit bien disposé. Enlève tout esprit de rébellion, toute révolte intérieure, afin que nous fassions tout bien ensemble et que nous puissions mettre de l'ordre. Si quelque chose serait entre nous, entre des frères, que ta paix, que ta grâce s'embrasse, s'étreigne, qu'il y ait grâce et salut, paix et bénédiction parmi ton peuple. Et comme Salomon l'a prié, qu'il n'y ait pas de fausse couche dans le pays, pas de division parmi ton peuple, mais que tu sois toi-même au milieu de ton peuple. Seigneur, éloigne nous maintenant des fondements de base de l'enseignement du Christ et que nous puissions nous élever vers la maturité, vers la perfection. Prends-nous par la main et conduis-nous selon ta parole. Que ta parole soit la lumière sur notre chemin, Seigneur. Toute ta parole que tu nous révèles par ton esprit devient une lumière. Elle brille dans les ténèbres. Seigneur, la lumière s'est faite au temps du soir, a apparu au temps du soir. Seigneur, le temps est venu de ne plus tourner en rond et d'être nourri maintenant par toi, de ne pas tourner en rond dans le désert, mais d'être nourri par toi. Non, en ce temps-là, tu n'étais pas satisfait de ton peuple. Tu disais, vous vous égarez toujours avec votre cœur. Mon Dieu, nous sommes sortis corporellement de toutes les choses de Babylone. Dans le cœur, nous avons apporté certaines choses de Babylone avec nous. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous entièrement. Fais de nous un seul cœur et une seule âme avec toi. Seigneur, un seul esprit avec toi. Seigneur Dieu, tout-puissant Dieu, si ce n'est pas la colonne de feu, c'est l'arche de l'alliance. Alors, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. Alléluia. Louange et honneur, gloire et adoration à ton saint nom. Au jour du salut, tu nous as sauvés, secourus. C'est le jour du salut. C'est le temps favorable, agréable, l'année de grâce du Seigneur, notre Dieu. Ah, et l'année de grâce de notre Seigneur a commencé. Alléluia. Louange, gloire et honneur à ton nom merveilleux et saint. Seigneur, il m'est arrivé ce que frère Branham a dit de la femme de teint noir dont le fils était en train de mourir après avoir prié pour lui. Il a prononcé les premiers mots. L'enfant a dit, il y a de la lumière dans cette pièce. Alléluia! Il y aura de la lumière dans cette pièce. Alléluia! La lumière dans nos cœurs, la lumière dans nos vies. Alléluia. 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 Louange et honneur, gloire et adoration à ton nom merveilleux et saint. Et saint. Alléluia. 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 Alléluia.